Imaginez la scène. Une poule, là, dans un pré. Elle s'arrête, elle penche la tête, et hop, elle picore instinctivement une herbe bien précise. C'est comme si elle savait exactement ce dont son corps a besoin.
C'est une belle image.
Oui, et cette sagesse animale, c'est un peu le cœur de notre exploration aujourd'hui. On va se pencher sur la phytothérapie pour les poules. L'idée, c'est d'utiliser les plantes du jardin comme une véritable pharmacie naturelle. C'est un retour au bon sens paysan, mais intégré dans quelque chose de plus large, de très actuel.
La permaculture.
Exactement. Et pour nous guider, on a un article très très complet du blog Poulailler Bio.
Oui, mon jardin, ma pharmacie. Soigner ses poules avec la phytothérapie en permaculture. C'est un guide qui est à la fois pratique, mais aussi une vraie réflexion sur une autre manière d'élever.
C'est ça. Le but ici, c'est pas juste de lister des remèdes. C'est de comprendre comment ça marche, concrètement. Quels sont les avantages, où sont les limites. Et surtout, comment on peut créer ce fameux cercle vertueux où le jardin soigne directement les animaux qui y vivent. La promesse est assez fascinante, je trouve.
C'est une promesse d'autonomie et de cohérence, en fait. Alors, allons-y. Explorons ensemble cette pharmacie à ciel ouvert.
Allez, c'est parti. La première chose qui frappe dans l'article, c'est que la phytothérapie n'est pas présentée comme une arme pour attaquer une maladie. On parle de médecine douce, c'est un terme qu'on entend partout, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment dans le contexte d'un poulailler?
Ce qui est intéressant, c'est que ça nous oblige à changer de perspective.
Complètement. L'objectif, c'est pas d'éradiquer un symptôme à coups de molécules, mais de soutenir ce que l'article nomme le terrain.
Le terrain.
Le terrain, c'est l'état de santé général de l'animal, son système immunitaire, sa vitalité. L'idée, c'est de le rendre plus fort, plus résistant, pour qu'il puisse faire face lui-même aux agressions. C'est une démarche de prévention avant tout.
Ah, d'accord. On cherche à renforcer ses défenses naturelles, pas à s'y substituer.
C'est une approche beaucoup plus globale, en somme. On ne soigne pas le rhume, on renforce le corps pour qu'il ne s'enrhume pas, si on veut. D'ailleurs, l'article prend bien soin de faire une distinction avec l'aromathérapie.
Ah oui.
L'usage des huiles essentielles. Ça a l'air d'être une précision importante.
Elle est fondamentale. Il ne faut surtout pas confondre les deux. Les huiles essentielles, ce sont des concentrés de principes actifs extraordinairement puissants.
Mmh.
Leur usage, surtout chez les oiseaux, qui ont un système respiratoire très très sensible, ça demande une expertise vétérinaire pointue. Une seule goutte en trop peut être toxique.
D'accord, c'est un autre monde.
Carrément. La phytothérapie dont on parle ici, elle est beaucoup plus accessible, plus douce. Elle utilise la plante entière, fraîche ou séchée. On parle du totum de la plante. C'est moins agressif, beaucoup moins risqué pour l'éleveur amateur, et ça s'intègre parfaitement dans une routine de soins quotidienne.
Ok, c'était plus une approche de soutien, une approche alimentaire, qu'un médicament au sens strict. Et j'imagine que cette douceur, on la retrouve aussi dans les produits finaux. L'article mentionne un avantage qui va parler à tous ceux qui aiment leurs œufs frais le matin.
Absolument, et c'est un des bénéfices les plus concrets. Avec la phytothérapie, il n'y a aucun résidu médicamenteux, ni dans les œufs, ni dans la chair.
Ah, ça c'est énorme!
On peut continuer à consommer la production de son poulailler sans aucun délai d'attente, ce qui n'est pas le cas avec la plupart des antibiotiques ou des vermifuges chimiques. Pour quelqu'un qui vise une consommation saine, c'est un argument de poids.
C'est même souvent la raison d'être d'un poulailler familial.
Exactement. Et ce n'est pas tout. L'article dessine un système qui est aussi écologiquement cohérent. Premièrement, beaucoup de ces remèdes sont gratuits. Ils poussent littéralement sous nos yeux, dans le jardin.
Oui.
Deuxièmement, et ça c'est un point clé en permaculture, on ne pollue pas son environnement. Les traitements classiques finissent en partie dans les fientes et peuvent perturber la vie du sol. Ici, on reste dans un cycle naturel.
La boucle est bouclée.
Voilà. Les plantes soignent les poules, dont les fientes vont nourrir le sol, qui à son tour fera pousser les plantes. La boucle est vertueuse.
Le système se nourrit et se guérit lui-même, en quelque sorte. C'est un changement de perspective complet. Mais, et c'est là que l'article devient vraiment crédible, je trouve, il met en garde contre l'angélisme. Ce n'est pas une solution miracle. Et c'est un avertissement crucial. L'auteur est très clair. Face à une infection bactérienne foudroyante, une coccidiose qui peut décimer un élevage en 48 heures,
oui.
Une fracture ouverte ou un prolapsus grave, la phytothérapie est tout simplement trop lente.
Et inefficace. S'obstiner à vouloir soigner un cas aussi sévère uniquement avec des plantes serait irresponsable.
Ça pourrait même être de la maltraitance, dit l'article.
Exactement.
C'est un point très important. On pourrait vite tomber dans l'excès inverse, vouloir tout soigner au naturel et finalement nuire à l'animal. La frontière entre soin et négligence, elle est mince ici.
Elle l'est. Le bon sens doit primer. Et puis, il y a d'autres limites. Les traitements à base de plantes sont souvent plus longs. Il faut être assidu, les donner tous les jours.
D'accord.
Et puis, il faut accepter une part d'incertitude. La concentration en principe actif d'un plant de thym, elle ne sera jamais la même que celle de son voisin. Ça varie selon le sol, le soleil, la saison. Ce n'est pas un comprimé standardisé. C'est la nature. Ce qui nous amène à la partie la plus concrète. Comment on fait ? De la cueillette à la gamelle. L'article insiste beaucoup, beaucoup sur la sécurité, avec deux règles d'or pour la récolte. La première, c'est l'identification. Et l'exemple donné fait vraiment froid dans le dos. Oui, parce que le risque est réel. L'exemple, c'est celui de la consoude, une super plante cicatrisante, mais qu'on peut confondre avant sa floraison avec la digitale pourpre.
Ah oui.
Et la digitale, c'est un poison cardiaque violent, pour les poules comme pour nous. L'erreur est tout simplement fatale. Donc, la connaissance botanique, ce n'est pas une option, c'est une obligation.
Donc, pas question de se lancer à l'aventure avec une vague idée de ce à quoi ressemble la plante.
Surtout pas. La recommandation, c'est de s'équiper d'un bon guide, d'utiliser une appli de reconnaissance fiable, mais surtout, les premières fois, de faire valider sa cueillette par quelqu'un qui s'y connaît.
Un botaniste, un pharmacien ?
Voilà. Dans le doute, on s'abstient. C'est la règle numéro un.
C'est noté. La deuxième règle est moins évidente, mais tout aussi importante. Le lieu de la cueillette. Ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est propre. C'est un point qu'on néglige souvent. On nous dit de ne jamais cueillir en bord de route. Logique, les gaz d'échappement chargent les plantes en métaux lourds.
Bien sûr. Il faut aussi éviter les abords des champs cultivés en conventionnel à cause des dérives de pesticides. Et puis, éviter les chemins de promenade où les déjections canines peuvent transmettre des parasites.
Ah, je n'y avais pas pensé à ça.
La qualité du remède dépend directement de la propreté de la plante. L'idéal, c'est de cueillir dans son propre jardin en bio. Ok. Donc on a nos plantes, bien identifiées, cueillies au bon endroit. Maintenant, la pharmacie. L'article propose une organisation que je trouve géniale, par zone de permaculture. Ça montre bien à quel point tout est connecté. Commençons par le plus évident, le potager. Qu'est-ce qu'on y trouve d'utile ?
Le potager est une mine d'or, et le premier de la liste est qualifié de roi de la basse-cour.
Ah, c'est l'ail ! L'ail, c'est un vrai couteau suisse. Vermifuge préventif, antibactérien, antiseptique général. Distribué régulièrement, il aide à maintenir un intestin sain.
D'accord. Et avec l'ail ?
À ses côtés, on trouve le thym. C'est l'antiseptique de la sphère respiratoire par excellence. Très utile en prévention l'hiver ou dès les premières atchoums. Attendez, il y en a un troisième qui m'a surpris. Les graines de courge.
Celles que je jette quand je prépare une soupe ?
Exactement celles-là. Ne les jetez plus. C'est un remède de grand-mère redoutable et entièrement mécanique. Ces graines contiennent une molécule, la cucurbutacine.
La cucurbie ? D'accord.
Oui, et elle paralyse les vers intestinaux, le ténia par exemple. Les vers se détachent de la paroi et sont expulsés naturellement. C'est un excellent vermifuge sans aucune toxicité.
C'est dingue de penser qu'on a ça sous la main sans le savoir. Bon, ça c'est pour le potager. Mais les zones un peu plus sauvages, les haies, les lisières, j'aurais tendance à méfier de ce qui y pousse.
Et pourtant, c'est là qu'on trouve des trésors que beaucoup considèrent, à tort, comme de mauvaises herbes. L'exemple le plus flagrant, c'est l'ortie.
Ah, l'ortie.
On passe notre temps à l'arracher, mais c'est une véritable bombe nutritionnelle. C'est incroyablement riche en minéraux, en fer, en protéines. Pour les poules, c'est un tonique général fantastique. Ça stimule le système immunitaire et ça favorise la ponte.
Et ça ne les pique pas ?
Le secret, c'est de la faucher et de la laisser faner une journée pour qu'elle perde son pouvoir urticant. Ou alors on la hache finement.
L'ortie, une alliée. Il fallait y penser. Et à part elle ?
On trouve aussi le pissenlit. Ses feuilles, ses racines, c'est un excellent dépuratif. Un draineur pour le foie et les reins. Parfait pour une petite cure de détox au printemps. Et puis, il y a la fameuse consoude dont on parlait, qui, une fois bien identifiée, est un apport formidable en protéines et un excellent cicatrisant.
Donc même le jardin d'agrément, celui qu'on plante juste pour faire joli, il peut avoir un rôle.
Absolument. C'est la multifonctionnalité en permaculture. Prenez la lavande. On la plante pour son parfum, mais elle a des propriétés apaisantes pour les poules stressées. Et son odeur est un répulsif efficace contre les poux rouges.
Ah, ça c'est très intéressant les poux rouges. C'est le cauchemar du poulailler. Le souci, le calendula, c'est une autre fleur magnifique. Ses pétales sont un cicatrisant cutané exceptionnel pour les petites plaies. Et l'article ajoute un bonus amusant, il est riche en caroténoïdes, il donne une couleur plus intense, plus orangée, au jaune d'œuf. Ah, voilà un argument qui va plaire. Et la menthe, j'en ai partout dans mon jardin, ça envahit tout.
Eh bien, c'est très utile. Dispersée fraîche dans le poulailler, elle rafraîchit pendant les fortes chaleurs. Dans l'eau de boisson ou la nourriture, elle aide à la digestion et son odeur repousse certains insectes et même les rongeurs. Chaque plante a sa fonction, c'est une véritable panoplie. Mais la question que tout le monde se pose... Concrètement, comment on donne ça à une poule? J'imagine mal en train de siroter une infusion de thym.
C'est une bonne question. Il faut ruser un peu. La méthode la plus simple, et c'est celle que l'auteur dit pratiquer au quotidien, c'est de tout hacher finement.
D'accord.
Les herbes fraîches, une fois passées au hachoir, on les mélange directement à leur pâté humide. C'est la voie royale. Pour l'ail, on l'écrase et on le mélange de la même manière. Si c'est bien dilué dans une nourriture qu'elles adorent, ça passe tout seul.
Et pour l'eau de boisson, on peut faire quelque chose?
Oui, c'est là que l'infusion et la décoction entrent en jeu. Pour les parties tendres, comme les fleurs de lavande ou les feuilles de thym, on fait une infusion classique. On verse de l'eau frémissante dessus, on laisse infuser, on filtre, et une fois refroidie, on la propose comme unique source d'eau.
Ok, et la décoction?
C'est pour les parties plus dures, les racines de pissenlit par exemple. Là, il faut faire bouillir la plante dans l'eau quelques minutes pour bien extraire les principes actifs.
D'accord, et pour les soins externes? Une poule qui se blesse la patte par exemple?
Là, on passe au baume ou au cataplasme. L'article donne l'exemple d'un baume au souci pour soigner les petites blessures ou la gale des pattes. On peut le faire soi-même avec des fleurs de souci macérées dans de l'huile et un peu de cire d'abeille. On l'applique directement sur la zone.
C'est vraiment de la cosmétique maison pour poules. C'est un peu ça. Et pour boucler la boucle, l'article se termine sur des règles d'or. Une sorte de checklist pour une pratique responsable. Ce n'est surtout pas un appel à l'improvisation. La première règle, c'est... Ne jamais expérimenter à l'aveugle. Oui, l'exemple de l'avocat est très parlant. C'est excellent pour nous, mais l'article dit qu'il contient une toxine, la persine, qui est très dangereuse pour les oiseaux.
Exactement. Ce qui est bon pour l'homme ne l'est pas forcément pour les animaux. Il faut se baser sur des savoirs éprouvés. La deuxième règle est tout aussi importante, ne pas jouer à l'apprenti sorcier en faisant des cocktails de plantes trop complexes. C'est contre-intuitif. J'aurais pensé que plus il y en a, mieux c'est.
Et c'est une erreur classique. Certaines plantes peuvent annuler leurs effets ou pire, créer des interactions nocives qu'on ne maîtrise pas. Il vaut mieux s'en tenir à des recettes simples et éprouvées.
Une seule plante ou un duo dont la synergie est connue, comme l'association ail et thym. La simplicité, c'est une garantie de sécurité.
Et si on n'a pas tout ça dans son jardin? Si on doit acheter des plantes séchées pour l'hiver, par exemple?
C'est un point de vigilance majeur. Il faut s'assurer de leur qualité. Une certification bio, c'est le minimum. Et il faut vérifier leur origine. Le marché des poudres de plantes est plein de produits, disons, de mauvaise qualité, qui n'ont plus aucune valeur thérapeutique.
D'accord. Et puis la règle ultime, répétée comme un mantra dans l'article, en cas de symptômes graves, d'abattement soudain, la consultation d'un vétérinaire reste indispensable. La phytothérapie accompagne, elle soutient, elle ne remplace jamais un diagnostic professionnel. Alors, si on prend un peu de recul, que doit-on retenir de tout ça? Ce qui ressort pour moi, c'est que la phytothérapie au poulailler est bien plus qu'une simple liste de remèdes. L'article parle d'un art de l'observation et de la patience. On a l'impression que ça recrée un lien beaucoup plus fort entre l'éleveur, ses animaux et son jardin.
C'est exactement ça. On sort d'une logique de consommation où l'on achète un produit pour régler un problème. Ici, on devient acteur de la santé de son petit écosystème.
Oui.
C'est l'essence même de la permaculture appliquée à l'élevage. En cultivant ce jardin qui soigne, on met en place un système où la prévention prime sur la guérison. On observe ces animaux, on anticipe leurs besoins. On leur fournit ce qu'il faut avant qu'ils ne tombent malades.
C'est une approche qui redonne du pouvoir et de l'autonomie à l'éleveur, tout en le responsabilisant énormément. Voilà, on ne subit plus, on observe, on anticipe, on accompagne. On devient un véritable gestionnaire de la santé de son écosystème. La boucle est bouclée. On prend soin de la terre, qui nous donne les outils pour prendre soin des animaux,
qui eux-mêmes enrichissent la terre. Pour finir, l'article évoque en passant un autre sujet, la comparaison entre cette alimentation naturelle, variée, et les granulés industriels, même bio. Ça m'a fait réfléchir et ça soulève une question intéressante pour aller plus loin. Dans quelle mesure cette approche de soins par les plantes nous invite-t-elle à repenser non seulement la pharmacie, mais l'intégralité du système alimentaire que nous proposons à nos animaux?